tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offre des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1830-1840, vous entendrez de Giuseppe Verdi la Variazione per pianoforte numéro 2.
L'avant-garde se suicide sans révolte, par Eric Hobsbawm. Images et musique partout. La vie quotidienne est envahie d'expériences esthétiques grâce à la combinaison de la technologie et du marché de masse. L'art n'apparaît plus comme une activité singulière, spécifique, et les artistes, qui avaient jadis pour objectif de révolutionner à tout le moins l'art, voire le monde, on finit par préférer accepter ce monde et déclarer la faillite de l'art. Pour les mouvements les plus importants de l'avant-garde artistique du siècle dernier, la transformation radicale des rapports entre l'art et la société imposait de découvrir de nouvelles façons de voir le monde. Pourtant, cette révolution n'a pas été accomplie dans les arts visuels et ne pouvait pas l'être. Après un demi-siècle, disons de 1905 au milieu des années 1960, passer à repenser l'art et le révolutionner, ce projet a été abandonné, ne laissant derrière lui que des avant-gardes ravalées au rang de simples sous-catégories commerciales dans une odeur de mort imminente. Cet échec est double. C'est d'abord celui de la modernité, terme qui devient courant vers le milieu du XIXe siècle, dont le programme affirmait que l'art contemporain devait être, comme l'a dit Pierre-Joseph Proudhon à propos de Gustave Courbet, l'expression de l'époque, et reposer sur la liberté pour les artistes de faire ce qu'ils veulent, même si personne d'autre ne s'y intéresse. Cette exigence de modernité s'applique alors à tous les arts, chacun devant être différent de celui des époques précédentes, ce qui, en un siècle qui postule un progrès continu, semble impliquer que toute manière nouvelle d'exprimer une époque serait supérieure à celle qui l'avait précédée. Concurrence des nouvelles techniques. Bien entendu, personne ne s'accorde sur ce qu'il faut entendre par « exprimer l'époque » ou sur la manière de s'y prendre. Même lorsque les artistes semblent tomber d'accord que ce siècle est essentiellement le siècle de la machine, la plupart des réponses sont futiles ou pompeuses. Pour les cubistes, serait-ce préférer un schéma géométrique aux lignes douces de corps vivants ou coller sur des toiles peintes des éléments produits par la société industrielle? Et pour les dadaïstes, serait-ce la construction de John Hersfield, Electromechanical Tatlin Shape, fabriquée à partir de composants industriels et inspirée des constructivistes russes? Ou s'agit-il de faire des tableaux s'inspirant du machinisme, comme ceux splendides de Fernand Léger? Les futuristes sont quant à eux assez futés pour laisser de côté les machines réelles et s'attacher à créer l'impression de rythme et de vitesse. Bref. Les multiples manières d'exprimer la modernité fondée sur la machine n'ont absolument rien en commun, et nulle logique contraignante ne sous-tend les nouvelles formes. C'est la raison pour laquelle des écoles et des styles variés ont pu coexister, qu'aucun n'a duré, et qu'un même artiste a pu changer de style comme de chemise. C'est là sans doute la modernité. Le second échec, qui s'est manifesté de manière plus frappante dans les arts visuels qu'ailleurs, c'est l'incapacité technique évidente du tableau de chevalet prédominant depuis la Renaissance à exprimer l'époque ou, plus encore, à faire face à la concurrence des nouvelles techniques. On peut aussi avancer que la peinture et la sculpture se sont trouvées désavantagées à un autre titre, qu'il s'agisse de l'opéra ou, à l'autre bout de l'échelle, du film, de la vidéo et du concert rock, peinture et sculpture en constituent les éléments les moins importants. Personne n'en a eu une conscience plus aiguë que les avant-gardes elles-mêmes, qui, dès l'art nouveau, ont cherché l'unification des arts. Mais l'impact de la peinture sur le cinéma est pour l'essentiel fort limité. Un peu d'expressionnisme dans le cinéma de Weimar, l'influence des tableaux d'Edward Hopper sur certains décors de Hollywood. Le ballet est la seule forme d'art collectif où des peintres aient vraiment tenu un rôle de partenaire à part entière et non d'accessoire. Mais il faut aussi partir d'une autre observation. Les arts visuels sont ceux qui ont le plus souffert d'obsolescence technologique. Ils ont été incapables de s'adapter à ce que Walter Benjamin a appelé l'ère de la reproductibilité technique. La littérature, elle, n'a jamais abandonné l'usage traditionnel de la langue ou, en poésie, les contraintes de la prosodie, sinon pour des expériences restées marginales comme dans Finnegan's Wake de James Joyce, ou non considérées comme des œuvres telles l'affiche poème phonétique du dadaïste Raoul Hausmann. En musique, l'avant-garde a rompu de façon plus frappante avec l'idiome du XIXe siècle, mais le public est resté, dans son immense majorité, fidèle aux classiques et aux post-wagnériens. Le répertoire des concerts grand public relève ainsi presque entièrement du cimetière.
Les plasticiens aspirent à une unification des arts dès le début du XXe siècle, mais seul le ballet donnera aux peintres un rôle de partenaire.
Une caméra sur une locomotive. Ce n'est que dans les arts visuels et singulièrement en peinture que la forme conventionnelle de la représentation s'est dévalorisée, comme en témoigne la chute vertigineuse de son prix sur le marché de l'art depuis l'entre-deux-guerres. La peinture d'avant-garde y a trouvé un avantage et un inconvénient. Elle est le seul gibier vivant à occuper la scène, mais le grand public ne l'aime pas. La peinture abstraite n'a commencé à atteindre des prix considérables que pendant la guerre froide, où, incidemment, elle a profité de l'hostilité conjointe d'Adolf Hitler et de Joseph Staline à son encontre, et est devenue une manière d'art officiel contre le totalitarisme. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les avant-gardes, impressionnistes, symbolistes, post-impressionnistes, art nouveau et ainsi de suite, bien loin d'abandonner la représentation, on repoussait les limites du vieux langage tout en élargissant l'éventail des sujets. De manière paradoxale, la concurrence avec la photographie s'est, dans ce domaine, révélée fructueuse. Les peintres étaient ceux qui avaient un droit exclusif sur la couleur et, des impressionnistes aux fauves, ils la magnifièrent. Ils retinrent aussi le monopole de l'expressionnisme au sens le plus général du terme, et exploitèrent la capacité de la peinture à faire pénétrer l'émotion dans la réalité, et ceci avec d'autant plus de puissance que sont repoussées les limites du naturalisme, comme en témoignent Vincent Van Gogh et Edouard Munch. De même, en se réclamant de la science contre la technologie, les artistes peuvent encore alors s'efforcer de s'approcher plus étroitement que la machine de la réalité perçue. C'est ce que déclarent Paul Cézanne ou Camille Pissarro avec Émile Zola et Guillaume Apollinaire. Mais le tableau s'éloigne alors de ce que voit l'œil, pour le fixer sur la convention codée de ce à quoi les ciels, les arbres ou les gens sont censés ressembler. Malgré tout, jusqu'au cubiste, la distance entre les deux n'est pas trop grande. Les avant-gardes, y compris le post-impressionnisme, se sont intégrés au canon reconnu, et les artistes qui s'en sont réclamés ont acquis une authentique popularité. La vraie rupture entre public et artiste ne se produira qu'au siècle suivant, comme le confirme Pierre Bourdieu avec la distinction entre Georges Braque et Vincent Van Gogh. Le public français, dans la dernière partie du XXe siècle, préférera toutes les classes confondues Van Gogh. Bref, il est impossible de nier que la véritable révolution dans les arts du XXe siècle ait été produite en dehors du champ de l'art par la logique combinée de la technologie et du marché de masse, autrement dit par la démocratisation de la consommation esthétique. En tant qu'art, la Guernica de Pablo Picasso est incontestablement supérieure à L'OTAN emporte le vent de Victor Fleming. Mais d'un point de vue technique, le film est plus révolutionnaire que le tableau et mieux à même de faire passer son message. Les bonimenteurs, plumitifs et techniciens qui produisent la publicité et les films n'ont pas seulement plongé la vie de tous les jours dans l'expérience esthétique, ils ont aussi converti les masses à des innovations hardies dans la perception visuelle qui ont laissé loin derrière elles les inventions du chevalet. Une caméra sur une locomotive transmet davantage l'impression de vitesse qu'une toile futuriste. Il a fallu, dans les années 1950, le triomphe du monde de la société de consommation qui remplit à ras-bord toutes les heures du jour d'un chaos de sons, d'images, de symboles et accule l'art en tant qu'activité spécifique à la faillite pour que les avant-gardes l'admettent. Mais dès qu'elles l'ont admis, elles ont perdu toute raison d'être.
L'avant-garde perd ses batailles. Le public ne l'apprécie pas et, de surcroît, la véritable révolution dans les arts s'est produite en dehors d'elle.
Joconde à moustache et soupe Campbell. Depuis les années 1960, c'est-à-dire depuis le pop art, les avant-gardes ne sont plus en mesure de révolutionner l'art. Elles se bornent à en proclamer la faillite. D'où le retour curieux à l'art conceptuel et à Dada, qui, dans leur version d'origine en 1914 et après, ne cherchaient pas à faire la révolution en art, mais à l'abolir ou, à tout le moins, le déconsidérer. C'est le sens de la paire de moustaches peinte sur la Joconde ou de la roue de bicyclette traitée comme une œuvre d'art par Marcel Duchamp. Andy Warhol et les artistes pop ne veulent, eux, rien détruire ou révolutionner, et surtout pas le monde, quel qu'il soit. Bien au contraire, ils l'acceptent et même l'aiment. Ils admettent en toute simplicité qu'il n'y a plus de place pour l'art visuel que produit l'artiste traditionnel, sinon comme moyen de gagner de l'argent. Warhol revendique, de fait, d'être le conduit passif consentant d'un monde vécu à travers la saturation des médias. Pas d'ironie, pas de sentimentalité, pas de commentaires, sinon par la connotation dont le choix de ces images répétées mécaniquement. Mao, Marilyn, les boîtes de soupe Campbell. Paradoxalement, c'est l'ensemble de l'œuvre, et non telle que ses réalisations, qui permet de s'approcher le plus de l'expression de l'époque qu'ont vécu les Américains de son temps. Mais il est une tradition d'avant-garde qui a bien fait le lien entre les mondes du 19e et du 20e siècle. C'est celle qui va de William Morris, du mouvement Art and Crafts, en faveur des arts appliqués, au Bauhaus. Ces artistes ne cherchent pas à se poser en créateurs de génie, mais à construire une société meilleure. Comme le dit un acteur du Bauhaus, László Moholy Nagy, exilé de Hongrie après la défaite de l'éphémère République soviétique hongroise. Le constructivisme, c'est le socialisme de la vision. Cette avant-garde de l'après-1917 renoue par-dessus les avant-gardes apolitiques ou même antipolitiques de 1905-1914, avec les mouvements socialement engagés. Ici, l'esthétique de l'ère du machinisme a un sens qui ne se réduit pas à une rhétorique vide. Dans les années 1920, le programme qui vise à changer la manière dont les hommes vivent et qui parle aux artistes susceptibles d'y participer directement a tendance à mélanger planification publique et utopie technologique. C'est un mariage entre Henry Ford, qui veut fournir des voitures à ceux qui n'en ont jamais possédé, et les aspirations de municipalités socialistes à procurer des salles de bain à ceux qui n'en ont pas. Les maisons et même les villes sont conçues comme produits de la logique universelle de l'activité industrielle. Il suffit de trouver une solution combinant optimisation de l'usage humain d'un espace limité, ergonomie et rentabilité. C'est là un idéal salutaire et qui a amélioré la vie de quantité de gens. Pour le peuple, mais sans son soutien. Il n'empêche que, comme le Bauhaus l'a lui-même découvert, changer la société est une tâche que ne sauraient accomplir les seules écoles d'art et officines d'études. La preuve, c'est qu'ils ne l'ont pas accompli. On pourrait conclure en citant les phrases qui terminent tristement la conférence de Paul Klee sur l'art moderne donnée en 1924, non loin du Bauhaus, alors à l'apogée de sa créativité. Nous n'avons pas le soutien d'un peuple, mais ce peuple, nous le cherchons. C'est comme cela que nous avons commencé là-bas au Bauhaus. Nous avons commencé par une communauté à laquelle nous avons donné tout ce que nous possédions. Nous ne pouvons faire davantage. Et cela n'a pas suffi.
Thank you. Thank you. Thank you.